Donc, tout d'abord, ben, merci aux organisateurs d'avoir accepté ma communication, dont l'objectif est de vous présenter la composition de nos référentiels, donc comment nous les construisons, nous les exploitons, les problèmes qu'ils nous posent. Mais en revanche, faute de temps, je ne vous présenterai pas leur utilisation par rapport à des cas d'études, sauf si je ne déborde pas trop et qu'on accepte que je présente une dernière slide. Donc, l'activité de la filière art contemporain s'intéresse au patrimoine créé de 1900 à nos jours. La typologie des œuvres est très variée. Elle peut être classique, comme des peintures ou des sculptures, mais aussi particulière à cette période, telles que des installations ou encore, à titre d'exemple, des structures en résine stratifiée conservées en extérieur. Bon nombre de ces œuvres sont réalisées avec ce que l'on appelle les nouveaux matériaux développés au XXe siècle. Cette spécialisation nous conduit donc à travailler sur des collections où l'objet n'est plus unique mais relève d'une production en série, comme par exemple les collections de design, les collections de mode, les collections de jouets ou bien encore le patrimoine scientifique et technique. Cette diversité se retrouve aussi au niveau des matériaux utilisés. En effet, les artistes peuvent acheter du matériel beaux-arts, mais aussi du matériel grand public et les détourner de leur fonction première, comme par exemple cette moquette utilisée pour faire un visage disposé sur un mur à la façon d'un tableau. Ils pratiquent parfois la récupération, comme avec ces déchets plastiques ramassés dans les poubelles et assemblés pour faire un arbre. Une œuvre moderne ou contemporaine est le plus souvent une œuvre composite, comme cette installation de Gilles Barbier, où il y a un mannequin en cire qui est revêtu d'habits en textile, et la spirale métallique comporte des objets qui sont en plastique, en papier, en bois, il y a du coton et même de la ficelle. C'est cette diversité qui nous a amené à constituer des matériothèques pour mieux connaître les matériaux du XXe siècle et ainsi être en mesure de répondre aux questions d'identification et aux problématiques de conservation posées par l'art moderne et contemporain. Trois types de matériothèques en lien avec ce patrimoine sont développés. La première est dédiée aux peintures que l'on peut se procurer dans les magasins Beaux-Arts et matériel pour artistes. Il s'agit de peintures à l'huile, de gouache, d'acrylique et d'autres types encore de peintures, et toutes marques confondues. La seconde est également consacrée aux peintures, mais dont la destination est la décoration intérieure, le secteur de l'automobile, le mobilier urbain. Il s'agit essentiellement de peintures acryliques, vinyliques, alkyd, polyuréthane et autres, avec des marques très connues, comme le Ripolin ou la Valentine, ou plus confidentielles, car destinées à des professionnels. La dernière matériothèque s'intéresse au plastique. Elle comprend principalement la cinquantaine de plastiques sélectionnés dans le cadre du projet européen Pop Art auquel la filière a participé. Certains de ces matériaux sont très rares aujourd'hui, comme le nitrate de cellulose ou la bakélite. Chaque plastique peut y être décliné sous plusieurs formes, comme par exemple le polyuréthane que nous avons sous sa forme de mousse, de textile enduit pour imiter le cuir, de fibres textiles, mais aussi d'élastomères. La collecte des matériaux en lien avec l'art contemporain a débuté dans les années 2000 et se faisait sous la forme de boîtes d'artistes réalisées par des étudiants en histoire de l'art. Il y en a plus d'une centaine conservées au C2RMS, mais leur contenu est très hétérogène. Il peut effectivement contenir des matériaux ou uniquement des documents, comme des photos, des coupures de presse ou des catalogues d'exposition. En 2013, une nouvelle version de ces boîtes a été envisagée. Elle ne doit contenir que des matériaux et la documentation afférente. Elles sont constituées lors d'une intervention de restauration. C'est ainsi que les pigments utilisés par le peintre Crayon Bull ont été collectés. La boîte du buffet contient pour le moment les peintures utilisées pour la rénovation de la tour aux figures située à Issy-les-Moulineaux. Ces boîtes peuvent aussi être réalisées dans le cadre d'un projet d'étude, comme celle de l'artiste de Vannes, qui a été constituée en lien avec la thématique patrimoine et peinture industrielle. Depuis 2008, c'est essentiellement par le biais d'acquisitions que ces matériothèques sont développées. Si ces acquisitions concernent des matériaux qui n'existent plus, il n'y a pas de critères de sélection. On prend tout ce qui se présente. Pour les matériaux beaux-arts, cela peut conduire à n'avoir qu'un seul tube pour une marque donnée. Ou bien, on peut avoir la chance de trouver pour une même marque des tubes d'époques différentes. Pour les peintures industrielles, on peut encore trouver quelques pots, mais c'est très rare et c'est essentiellement des nuanciers avec des pastilles de peinture qui sont disponibles. Pour le plastique, c'est le côté vintage qui nous guide ou bien le ressenti face aux matériaux qui vient avec l'expérience. Il y a aussi la recherche d'objets dégradés pour mieux comprendre les phénomènes de dégradation observés dans les collections. Nos sources d'approvisionnement sont multiples, les marchés aux puces, les vide-greniers, les dons, mais aussi les sites d'enchères en ligne. Ces références anciennes sont souvent uniques, on n'a pas un énorme choix, elles ont toutefois l'avantage d'avoir subi un vieillissement naturel comme les matériaux présents sur les œuvres. Pour les références actuelles, un choix s'impose. En effet, une gamme de peintures Beaux-Arts peut contenir des centaines de couleurs. Par exemple, la gamme Liquitex contient 105 couleurs. Cela nous conduirait donc à acheter des milliers de tubes et cela périodiquement pour suivre les évolutions de formulation. Impossible à faire. Nous avons donc décidé de nous limiter à 4-6 couleurs et la périodicité d'acquisition n'est pas encore définie. Pour les peintures industrielles, nous appliquons les mêmes règles. Une des pistes serait de demander aux fabricants de peinture de réaliser des nuanciers peints à la main. Est-ce que cela est possible? Nous allons le tester prochainement. Pour les plastiques, nous faisons l'acquisition d'un seul objet, car très vite, c'est un problème de place pour le stockage qui se présente. Des séries peuvent être achetées dans le cadre d'un projet expérimental. Une autre source potentielle est l'achat de kits multi ou monomatériaux auprès de revendeurs spécialisés, mais c'est assez difficile à trouver. Dès leur acquisition, ces références actuelles sont exploitées dans la limite des disponibilités humaines et techniques pour assurer cette gestion. Les peintures sont appliquées sur des lames de verre pour faciliter les analyses et les éventuels prêts. Des problèmes d'adhérence sont apparus et de nouveaux supports sont en cours de test. Des analyses et des examens non invasifs sont réalisés et du vieillissement naturel à la lumière est enclenché. Dès que nous en avons la possibilité, des analyses destructives sont aussi réalisées. Pour les objets en plastique, pas de reconditionnement à faire. Les mêmes techniques non invasives sont appliquées. En raison du caractère unique de l'objet, pas de vieillissement naturel, ils sont stockés dans des armoires. Et les analyses destructives sont possibles, mais dans une certaine limite qui est souvent liée à la dimension de l'objet. Pour les références anciennes, si leur état de conservation le permet, ce sont principalement des analyses et des examens non invasifs qui sont pratiqués. Une limite en taille est définie pour des micro-prélèvements et des analyses destructives, mais nous ne faisons pas de vieillissement à la lumière. Si elles sont dans un mauvais état de conservation, tous les examens et analyses non invasifs ne sont pas possibles. On est donc obligé d'avoir recours à des micro-prélèvements. Une limite de quantité prélevable est également définie. Tous ces résultats d'analyse, que ce soit sur les références anciennes ou nouvelles, sont intégrés dans les librairies propres aux équipements d'analyse et utilisés pour l'interprétation des analyses conduites sur les œuvres. Le stockage et la bonne conservation de ces matériaux textes sont des questions importantes. Voici l'état des lieux. Pour les peintures Beaux-Arts, il n'y a pas vraiment de problème particulier. Les contenants sont dans des blocs tiroirs installés dans des armoires à bureau. À terme, nous espérons des armoires plus spécifiques pour un rangement plus individualisé qui facilitera leur classement et leur utilisation. Pour les peintures industrielles, certains de ces produits se transforment dans le temps. Il y a parfois des phénomènes de déphasage qui peuvent être réversibles, comme pour cette peinture glycéro-ripolin, mais pour combien de temps encore? Ces transformations peuvent être irréversibles et elles ne permettent plus d'utiliser la référence. Doit-on à tout prix garder ses peaux pleins ou juste des applications sur des supports, mais alors en combien d'exemplaires? De plus, bon nombre de ces matériaux industriels sont en phase solvant de type hydrocarbure qui émettent des composés volatiles pas très sympathiques. Les armoires simples actuelles ne conviennent pas, il faudra acheter des armoires ventilées et filtrées. Pour les plastiques, des erreurs ont été commises, comme avec cette Sophie Girafe conservée dans un sachet plastique. Il semble plus judicieux d'utiliser des boîtes en carton. La solution économique qui a été retenue pour le moment est la boîte à chaussures, récupérée gracieusement auprès de certaines boutiques, nous avons notre réseau, mais il faudrait des boîtes de conservation, ce qui représente un certain coût. Toutes ces références doivent être indexées et marquées pour faciliter leur gestion. Pour les peintures Beaux-Arts, industrielles et quelques produits de restauration, le type d'indexation a évolué. Au début, nous avions fait de grandes catégories. Puis après, nous avons décidé d'être plus précis en détaillant l'année du recollement, le lieu de stockage pardon, le lieu de stockage et le type de produit, ce qui nous a paru induire des confusions. Nous sommes donc revenus à un système plus simple, mais tout de même avec un certain niveau de précision. Est-ce pour autant une bonne méthode d'indexation? Le marquage est directement réalisé sur les contenants par le biais d'étiquettes autocollantes. Pour les objets, on privilégie l'étiquette papier accrochée par un fil, mais certains plastiques émettent des acides qui peuvent dégrader le papier. Le marquage façon musée pourrait être une solution, mais est-ce que cela ne risquerait pas à long terme de créer des dégradations localement? On réalise pour le moment une documentation photo auquel on associe un nom descriptif. Cette documentation photographique est de toutes les façons utile, voire nécessaire, pour sauvegarder des informations qui pourraient disparaître si le contenant se dégradait, voire était égaré. Ça peut arriver. Pour les objets en plastique, elle sert également de témoignage de cinétique et des processus de dégradation. Tous les fichiers numériques produits sur un élément de ces matériaux tech sont conservés. Les classements choisis est le suivant. Il y a un dossier pour chaque matériau tech qui contient des sous-dossiers correspondant à chaque élément. Et dans chaque sous-dossier, nous avons tous les fichiers numériques générés. Le nommage des sous-dossiers et des fichiers n'a pas encore fait l'objet d'une réelle réflexion. Nous espérons que ce que nous avons choisi n'est pas trop mauvais. Tout ce qui est fait et produit pour une référence est consigné dans un tableau Excel pour avoir facilement accès à l'information. Le souhait de partager ces matériaux tech avec les collègues du patrimoine intervenant dans le domaine de l'art contemporain s'est très vite imposé. Initialement, une base de données FileMaker a été construite pour partager l'info de ce qui était disponible. Mais très vite, des soucis sont apparus en lien à la version du logiciel détenu par les utilisateurs. Un outil en ligne est venu remplacer FileMaker. Aujourd'hui, nous utilisons la version gratuite, donc limitée en capacité, mais elle est à ce jour suffisante. Cet outil est très facile à utiliser, il est très intuitif. Il permet également un export sous un format Excel pour pérenniser les données. Et il y a une application smartphone ou tablette, ce qui est parfois pratique. Bien entendu, en parallèle de la collecte d'objets, nous essayons aussi de réunir de la documentation susceptible d'apporter des informations complémentaires aux analyses sur les formulations et les propriétés des matériaux. Celle-ci prend différentes formes. Il y a des brevets, des factures, des publicités et aussi, source non négligeable, les photos que l'on peut trouver sur les sites d'enchères et les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps. Donc, je vais quand même vous présenter un exemple d'utilisation de cette matériothèque. Donc, dans le cadre de la restauration d'une œuvre de Bernard Basile, Le Grand Serpent, nous avons pu interviewer l'artiste qui nous a dit avoir utilisé des peintures flash. Nous avons analysé quelques-unes de ses couleurs. Et grâce à notre référentiel de peintures flash constitué dans les années 85, des peintures flash datées des années 85, nous avons pu mettre en évidence que le jaune utilisé sur le grand serpent correspondait à la peinture flash et à la couleur précise jaune citron. Voilà, je vous remercie de votre attention.